enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Gloire à Dieu.
Amen.
Balaam a eu son âne, Mamadou a son âne. L'âne de Balaam, l'âne de Mamadou, il parle toujours en langue. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce soir et nous sommes très heureux pour être là dans cette semaine de jeûne et prière. Et nous voulons avancer pas à pas. Nous voulons progresser dans la direction où l'Esprit de Dieu veut nous conduire. Et ce soir, nous avons pour thème l'Esprit et la parole. L'Esprit et la parole. C'est très important que nous saisissons pourquoi l'Esprit et la parole. Je crois que en voulant qualitativement classer les trois personnes de la divinité, le monde chrétien a fait une erreur en croyant que il y a une classification hiérarchique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en ce moment, le Saint-Esprit devient un Dieu de troisième ordre. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, quand on parle de lui, ils sont offusqués, ils le négligent. Notre Seigneur nous dit ceci. Il y a un mouvement actuellement puissant de l'Esprit qui souffle sur l'Afrique. C'est ça? Quand Philippe a dit à Nathanaël, allons à Nazareth, il a dit, qu'est-ce que de bon on peut tirer de Nazareth? Quand les gens regardent, quand les journalistes présentent le continent africain, c'est dommage, ils ont des yeux naturels, ils ne voient pas au-delà de ça. Mais nous qui sommes là-bas, nous voyons au-delà de ça. Et ce qui se passe est extraordinaire. Le mouvement de l'esprit et la parole qui tiennent ce continent sont plus que surnaturels. Et que les gens veulent ou pas, ils vont voir une Afrique nouvelle. Une Afrique qui sort totalement de cette situation. C'est ce que Dieu nous a donné. Et ce mouvement est en train de balayer l'Afrique. Des miracles instantanés, des aveugles voient, les paralytiques sautent. Il y a toutes sortes. Et Dieu est en train d'agir. Le mouvement de l'esprit est réel et authentique. C'est pourquoi, lorsque nous venons vous parler, nous venons vous parler des choses que nous savons. Ce n'est pas la théorie. Des choses que nous touchons du doigt, une réalité. Chaque mardi soir dans notre église, il y a un mouvement puissant de l'esprit qui visite les gens les mardis soirs. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de retourner au commencement comme Dieu lui-même. Et qu'est-ce qu'il y avait au commencement, frères et sœurs? Il faut retourner si nous devons imiter. Et Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Mais nous pouvons dire que nous devons imiter Christ lui-même. Au commencement, qu'y avait-il? Au commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'on a constaté? Ça, c'est important. Dans Jacques 1, verset 17. Il est écrit ceci, toute grâce, d'abord au verset 16, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Il y a une mise en garde ici, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Cela veut dire que il y avait une sorte de tromperie qui s'était introduite parmi les croyants. Et Jacques attire leur attention en disant, mes frères, ne vous y trompez pas, il n'y a pas de modernisme dans le christianisme.
Amen. Amen.
Écoutez-moi, Dieu est Dieu, Dieu est hors du temps. Le modernisme est en relation avec le temps et l'espace. Dieu est hors du temps et de l'espace. Dieu va de moins l'infini, plus l'infini. Alors que le temps varie de 1 jusqu'à un nombre entier relatif qui est là. Et Dieu est hors du temps. Quand vous parlez de modernisme, Dieu est déjà en avance sur le modernisme. Nous, nous sommes au troisième millénaire, mais Dieu n'est pas au troisième millénaire. Nous disons troisième millénaire, le siècle de la civilisation, le siècle du modernisme. Dieu a âgé plus que 3000 ans. Dieu est en dehors. Il est en dehors du temps et de l'espace. Tout ce que nous faisons, Dieu a déjà vu la fin avant le commencement. Oui, c'est bien, mais on va aller doucement, mon frère. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que je veux partager ce soir avec vous? Il est dit ici, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Il faut que vous connaissiez Dieu tel qu'il s'est décrit lui-même. N'essayez pas de comprendre Dieu tel que quelqu'un vous le dit. Sa parole est là pour vous décrire qui est Dieu. La Bible dit ici qu'il est le Dieu duquel sort du moins toute grâce et tout don parfait. Et en lui, en ce Dieu-là, il n'y a aucune ombre de variation, il n'y a aucun changement possible. Alors, quand vous voulez parler à Dieu, à qui vous adressez-vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous adressez à quelqu'un qui est inconstant, quelqu'un qui varie, quelqu'un qui a des sauts d'humeur? Est-ce que c'est cela le problème? Parfois, nous rabaissons Dieu à notre niveau, parce que selon le temps, notre humeur change. Nous croyons que Dieu change comme cela. Et c'est pourquoi, parfois, cette confiance totale en lui n'est pas là. Parce que nous l'avons tellement rabaissé au niveau d'un homme. Il n'y a aucune ombre. Même, on parle de l'ombre, on ne parle pas d'un changement. Une ombre de variation. Il n'y a aucune ombre de variation en lui, dans sa personne. Si votre foi n'est pas liée à un Dieu comme cela, vous avez un Dieu vacillant. C'est un Dieu qui ne mérite pas qu'on l'adore, parce que tout Dieu qui est vacillant n'est pas Dieu. Il y a des déclarations fortes qu'on doit vous dire pour vous réveiller un peu. Il faut de l'électrochoc. Non, mais je vous parle sérieusement. Parce que quand je vous regarde, vous êtes bien intentionné, vous êtes formidable, vous êtes merveilleux, vous êtes intelligent. Mais parfois, il faut des électrochocs pour que ça démarre. Et c'est important, frère. Parce que si nous traitons Dieu comme un petit copain là, alors bon, ça va, mon vieux, ça va, on tape sur ses épaules de vieux papa croulant. Dieu n'est pas un vieux papa croulant. Il est un Dieu bon, mais il n'est pas bonbon. Il est un Dieu doux, il n'est pas doudou. Il est Dieu. Un point, c'est tout. C'est important que, il faut que nous voyons son caractère tel qu'il s'est décrit lui-même. Alors, puisqu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas ombre de variation en lui, retournons au commencement pour voir au commencement qu'est-ce qu'il a fait. Comment Dieu travaillait au commencement? Comment il a créé les choses au commencement? Et si l'hypothèse d'école est réelle, s'il n'y a pas d'ombre de variation en lui, et s'il n'y a pas de changement en lui, s'il a commencé à travailler de cette manière, pourquoi en l'an 2006 va-t-il changer sa manière de travailler? Pourquoi il va changer? Je vous pose la question. Pourquoi vous voulez que Dieu change pour nous suivre? Répondez à cette question. Pourquoi vous voulez qu'il change? Regardons comment il a travaillé au commencement, et c'est ce que nous allons voir ce soir, et on va aller dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, c'est le livre du commencement. Genèse chapitre 1, il est écrit au verset 1, c'est le chapeau. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça c'est le chapeau, c'est le verset un, mais en même temps, c'est le chapeau. Et il est écrit là, Dieu. En hébreu, c'est un terme, un pluriel majestueux. Un pluriel, Elohim. C'est un pluriel qui est là. Donc, il nous montre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, voici comment ils ont travaillé et voici comment ils vont continuer à travailler, puisque le Fils est le même hier, aujourd'hui et éternellement, puisque le Père, il n'y a pas d'ombre de variation en lui, puisque le Saint-Esprit, il n'y a pas de changement en lui, ce qu'ils ont fait au commencement, ils continuent à le faire. Personne, frère, aucune doctrine humaine, aucune doctrine des théologiens ne peut changer la manière de Dieu de travailler. Il faut qu'il y ait des certitudes en vous. Il faut qu'il y ait des faits établis dans vos cœurs qui vont vous permettre que personne ne puisse vous bousculer ou vous manipuler parce que vous connaissez Dieu qui ne change pas. Si vous voulez avancer avec Dieu, il faut le connaître tel qu'il dit qu'il est. Et non pas ce que les gens pensent de lui. Et non pas ce que les gens pensent de lui. C'est ce qu'il a fait. Un fils de musulman convaincu, un waliyou, fils d'un waliyou, un grand musulman, un saint de l'islam, pour que je change, il a fallu que je découvre qui est Dieu. Pas ce que les chrétiens pensent. Quand je les voyais, ils pleuraient, ils disaient, mais oh, Dieu m'a abandonné. Il dit, montre-moi où Dieu t'a abandonné. Montre-moi le lieu et je vais lui dire à monsieur Dieu de venir te retrouver là-bas. Un langage comme ça, Dieu m'a abandonné. Dieu peut abandonner quelqu'un. Dieu est omniprésent. David dit, si je m'en vais, même en enfer, il est là-bas. Si je m'en vais de l'autre côté, il est là-bas. Où est-ce qu'il vous a abandonné? C'est un langage religieux, ça. Ah, mais Dieu m'a abandonné. Où? Montre-moi, je vais aller attraper sa main, je vais venir te trouver là-bas. Les gens, non, mais non. Si je, vous voyez, je parle avec mon cœur, je ne prêche pas avec ma tête, je parle avec mon cœur. Et je vais passer de cœur à cœur. Parce que cette tête-là, elle varie beaucoup. Je vous parle de cœur à cœur. Au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? Regardons-le travailler. Prenez votre fauteuil et regardez Dieu travailler. Regardez-le attentivement. Examinez comment il travaille. Et alors, quand vous quitterez le stade où Dieu travaille, vous saurez comment il travaille. Et alors, plus jamais, vous n'allez douter de lui. Même quand vous ne comprendrez pas ce qui se passe, vous n'allez pas douter de lui. Même si tout semble tourner autour de vous, même tout semble basculer, vous vous asseyez tranquillement et vous savez que Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Frères et sœurs, au commencement, il est dit, le verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a créé, Elohim a créé, et comment s'est-il pris pour créer? Quand nous lisons la Bible, nous devons nous arrêter. Parce que Jésus nous a dit, le Saint-Esprit vous enseignera. Il vous enseignera. S'il est un enseignant, je suis un disciple, je suis un élève, un étudiant, je dois attendre le maître pour qu'il m'enseigne. Comment, on me dit Dieu a créé, Elohim a créé. Alors, comment s'est-il pris pour créer? Je me pose la question, comment s'est-il pris pour créer, pour travailler? Ah, le Saint-Esprit va commencer. Je suis un étudiant et il va commencer à me dire comment Dieu a travaillé. Mais avant qu'il ne travaille, qu'est-ce que nous voyons ici, verset 2, nous avons vu? La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Avant de créer, Dieu a d'abord vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Une terre informe et vide et des ténèbres à la surface de la terre. Je vous pose la question. C'est important que vous compreniez où nous voulons aller aujourd'hui. Dieu a vu quelque chose. Il veut travailler, il veut créer. Mais pourquoi veut-il créer? Parce qu'il a vu une terre informe. qui n'a pas de forme géographique et géométrique, et qui est vide. Mais ce vide-là, en réalité, était sous la forme de ténèbres. Alors, quand Dieu voit, et quand nous nous voyons, il y a des réactions. Quelle était la réaction de Dieu? Quelle a été la réaction de Dieu quand Dieu a vu la terre informe et vide et avec des ténèbres qui se mouvaient? Est-ce que Dieu a été dans la déprime? Non, je vous pose la question. Alors, pourquoi quand il y a des vides dans votre vie, quand il y a des ténèbres, pourquoi vous êtes tombé dans la déprime? Pourquoi? Pourquoi? Dieu voyait, il voyait le vide, il voyait pas de forme géométrique, et ce qu'il voyait encore était contrôlé par les ténèbres, qui est la nature de quelqu'un d'autre, le prince des ténèbres, qui contrôlait. Mais est-ce que Dieu s'est ému? Est-ce que Dieu est rentré en colère? Est-ce que Dieu s'est découragé? Est-ce que Dieu a dit, ce n'est pas la peine, bof, on ne peut rien tirer de bon de cette terre-là, regardez. Est-ce qu'il a dit aux anges, aux archanges, venez voir là? Venez voir, venez constater vous-même, ça ne va pas ici. Il n'y a rien de bon, ouais, regardez. Il n'y a que des ténèbres, la terre est vide, informe. Est-ce qu'il a fait cela? Non. Si vous voulez travailler dans le royaume de Dieu, il faut travailler selon les principes de Dieu. Ah oui. Nous sommes que des ouvriers. Et un ouvrier, pour construire un chantier, dépend du maître de chantier et non pas de sa volonté. Nous sommes des ouvriers. Nous ne pouvons pas travailler sur les chantiers de Dieu comme on veut. Un ouvrier donne des briques quand le maître maçon dit « envoyez les briques ». Il donne le ciment quand le maître maçon dit « envoyez le ciment ». On ne vient pas sur les chantiers et puis on s'habille, on fait ce qu'on veut. Non, frères et sœurs. Il faut que... C'est pourquoi parfois Dieu nous regarde. Il est étonné, bon, on est là, on va faire ça. Il dit, mais vous allez faire ça. Est-ce que je vous ai dit de faire, hein? Est-ce que vous m'avez regardé comment je fais? Mon fils vous a dit, je ne fais rien que ce que je vois faire au Père. Et je ne dis rien que ce que le Père me dit. Et vous êtes mes enfants. Et vous faites toujours le contraire de ce que je dis. Alors, mais ça ne va pas. Il y a deux groupes d'enfants. Il y a mon enfant, mon fils, Jésus-Christ. Il a dit, je ne fais rien sans que le Père ait fait ou montré, et je ne dis rien, alors, et vous faites le contraire. Pourquoi vous êtes dans la déprime? Pourquoi vous êtes contrôlé? Pourquoi vous êtes oppressé? Parce que vous ne travaillez pas comme j'aurais voulu que vous travaillez. Il y a des moments, il faut que nous rentrions en nous-mêmes et que nous restions sérieusement dans la présence de Dieu pour voir pourquoi ça ne marche pas. Nous faisons beaucoup de choses, et les résultats, c'est comme tout juste une souris qu'on tire d'une montagne. Et ça nous frustre. Et quand il y a quelques personnes qui ont des migraines guéries, on est content. Mais Dieu, c'est plus que ça, frère. C'est plus que ça. Notre propre vie est une vie vide. Une vie vide, informe, où les ténèbres viennent, les ténèbres de la destruction, les ténèbres de la stérilité, toutes sortes de ténèbres affectent notre vie. Et il n'y a pas de joie ni de paix. Alors que Dieu aurait voulu que l'amour, la paix, la joie, la douceur, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, la foi, soit notre partage quotidien. C'est notre nature comme celle-là. C'est ça notre nature, frère. Pendant des années, j'ai lutté. J'ai vu des guérisons. J'ai vu des aveugles voir, des sourds entendre. Je les ai vus de mes yeux. Je les ai vus se lever. Mais j'étais dans l'abattement. L'insatisfaction. Quelque chose au fond de moi criait. Mais ça ne va pas. J'étais dans la frustration. C'est comme les grands hommes de Dieu des années 50 qui ont bouleversé l'Amérique. Mais sont tous morts dans leur chambre d'hôtel ou parfois dans des situations terribles. Pourquoi? Parce qu'après la prédication, après la campagne d'évangélisation, on les trouvait dans la déprime en train de regarder des films pornographiques ou en train de voir pourquoi. Alors, pourquoi un homme peut-il être dans cette situation-là, déprimé, alors qu'il vient de voir des miracles, il vient de voir des milliers de personnes répondre à l'appel de Christ, il vient de voir des guérisons extraordinaires, et puis lui-même, il est déprimé. C'est là que vous devez comprendre. Il y a quelque chose qui ne marche pas chez les chrétiens. C'est ça que j'ai essayé de découvrir pendant 15 ans, 20 ans. Voyageant de pays en pays pour chercher à savoir pourquoi tous ces grands hommes de Dieu-là ont failli. Et je suis sur la route de la faillite, moi aussi. Alors je me suis arrêté. Il dit, Seigneur. Il me dit, mais vous ne faites pas comme je faisais. Vous faites comme vous pensez. Vous le faites selon vos pensées. Mais vos pensées, mes pensées, sont aussi loin de l'Est, comme l'Ouest est loin de l'Est. Vous devez venir avec vos pensées, les soumettre à mes pensées, pour que vous ayez les pensées de mon fils. Alors j'étais découragé. Il me dit, retourne au commencement. Regarde comment j'ai opéré au commencement. Les deux commencements. Dans Genèse, le premier commencement, c'est le commencement du Père. Et dans Jean 1, c'est le commencement du Fils. Et dans Actes, c'est le commencement du Saint-Esprit. Les trois ont eu leur œuvre en commençant. Le Genèse, c'est le Père qui a commencé la création. Dans Jean 1, c'est le Fils. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole, et tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole, et tout a été fait par la parole, et dans Actes, c'est le commencement du Saint-Esprit. Alors, regardez chaque fois que moi les trois ont opéré, dans l'unité, dans l'harmonie, et nous voulons opérer sans les regarder. Et ça amène des choses. Il y a des guérisons, il y a des délivrances que nous avons. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas dans la joie. S'il faut que je me calme par une bonne bouteille de whisky après une prédication, je suis un prédicateur malheureux. S'il n'y a que le whisky qui puisse me calmer, alors vraiment, il vaut mieux que j'abandonne le ministère. Ah oui? Pas le Saint-Esprit. Jésus est le prince de paix. L'Esprit est l'Esprit de paix, de joie. Le Père est l'Esprit, Dieu d'amour. Et les trois ne peuvent pas me satisfaire. Il faut que frère, réfléchissez. Asseyez-vous. Faites un bilan spirituel de votre vie. Faites un bilan spirituel. En fin d'année, chaque entreprise fait son bilan. Et les comptes d'exploitation, on les regarde. On tire les résultats. Pourquoi ça n'a pas marché? Alors, spirituellement, faites votre bilan spirituel. Et regardez pour voir si le bilan est positif. Si le compte d'exploitation, le résultat est bon. Si ce n'est pas bon, cherchez à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché dans le département de votre vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est le commercial qui a mal vendu? Est-ce que c'est la technique, la direction d'exploitation qui a produit des produits trop élevés et qu'on n'a pas découvert? Ou est-ce que les agents commerciaux qui n'ont pas su faire placer les produits? Spirituellement, c'est la même chose dans notre vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie? Je dois m'arrêter. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors la Bible dit que Dieu, il vit. Il vit la terre informe et vide. Il vit les ténèbres, mais il s'en est pas ému. Il n'a pas été offusqué par ça. Parce que Dieu savait ce qu'il allait faire et Dieu sait où il va, frères et sœurs. Dieu n'a pas été négatif. Dieu n'a pas été découragé. Il n'a pas été abattu et languissant. Non. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Et ça, c'est important. Si vous savez où vous devez partir, si vous savez d'où vous venez et où vous partez, si vous savez qui est avec vous, qui est en vous, si vous savez ces choses-là, si vous avez ces certitudes, frères et sœurs, le monde, les tempêtes peuvent se lever. Mais dans cette tempête-là, vous tiendrez sur le rocher simplement. Vous savez que vous savez que vous savez que vous savez et que vous savez. Les gens vont vous dire, mais vous savez quoi? Je sais. C'est une connaissance de révélation. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance de révélation. Je sais en qui j'ai cru. Et je connais en celui en qui j'ai placé ma confiance. N'est-il pas celui qui a créé le monde? N'est-il pas celui qui tient le monde dans sa main? Alors s'il tient le monde dans sa main, et moi par rapport à ce monde-là, je suis quoi? Comme un grain de poussière. S'il ne tremble pas en tenant le monde, s'il n'est pas fatigué en tenant le monde dans sa main, ce n'est pas moi qu'il va lâcher. Alors, je me couche et je m'endors. Je me repose en lui. Mon repos est en lui. Mon repos n'est pas dans mes efforts. Mon repos n'est pas dans ma qualification. Mon repos n'est pas dans ce que les hommes disent. Mon repos est dans celui qui dormait dans la barque quand la tempête, ce tourbillon rentrait dans la barque. C'est en lui que je trouve mon repos. Et j'ai mes yeux fixés sur lui, l'auteur et le consommateur de la foi. Je le regarde. Puisque lui dort dans la tempête, moi aussi je peux dormir aussi. Frère, c'est ça. La tempête, Dieu regardait, Dieu assis son trône, il regardait sur la terre, il voyait les ténèbres, il voyait toutes sortes de choses. Mais David dit dans psaume 2 que Dieu est assis et il rit. Il rit. Il n'est pas offusqué, il n'est pas troublé. Et la suite, regardons la suite maintenant. La suite dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a vu les ténèbres, mais Dieu regardait quoi? Parce que les deux choses sont différentes. Dieu a vu, mais Dieu regardait. Dieu a vu quoi? Les ténèbres. Dieu a vu quoi? La terre informe et vide. Dieu a vu quoi? Il a vu ces choses-là. Mais Dieu regardait quoi? Parce que le verbe regarder, le verbe voir, c'est différent. Il regardait quoi? Son attention était sur quoi? Sur qui? Le Saint-Esprit qui se mouvait. Écoutez, les gens voient. Moïse qui a écrit ce livre-là dit, mais Dieu a vu. Il voyait les ténèbres. Il voyait la terre informe et vide. Mais en réalité, Dieu allait au-delà des ténèbres. Il voyait qui? Il voyait le Saint-Esprit qui se mouvait. Si dans votre vie, quand ça ne va pas, vous ne voyez pas le Saint-Esprit qui se meut dans votre vie, qu'allez-vous faire? Si le Saint-Esprit n'est pas en mouvement dans votre vie, dans votre famille, dans votre ministère, si le Saint-Esprit n'est pas en mouvement, si vous ne regardez pas au mouvement de l'Esprit, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est les ténèbres. Deuxième dimension, c'est le Saint-Esprit. C'est les deux dimensions naturelles. La première dimension qui est la loi de la gravitation et la deuxième dimension qui est la loi de l'aérodynamique. La loi de l'aérodynamique a permis de contrôler la loi de la gravitation pour que des avions de 100 tonnes volent en l'air sans tomber. Il y a des lois spirituelles qu'il faut découvrir dans la parole de Dieu. Les ténèbres sont là dans ma vie. Je ne m'inquiète pas, mais je regarde à qui? Au Saint-Esprit qui se meut. Je regarde au Saint-Esprit qui est en moi. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Laissez le Saint-Esprit venir en vous. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir et il va contrôler toute forme de ténèbres dans votre vie. Il va contrôler les œuvres de la chair dans votre vie. Il va venir contrôler toutes les oppressions, toutes les dépressions dans votre vie. C'est le rôle du Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit n'est pas venu prendre des vacances en vous. Vous n'êtes pas la plage. Vous n'êtes pas une plage. Et votre intérêt n'est pas bon, hein, pour qu'il prenne le repos là-bas. Il est venu dans un seul but. Il est venu dans le but de vous aider à contrôler les ténèbres qui minent, qui contrôlent chaque aspect de votre vie. Il est venu dans ce but-là. C'est pourquoi le Père regardait attentivement le Saint-Esprit. Il dit que Dieu créa. Le Père est sur son trône, lui, il bouge jamais. Vous savez ça, hein? Lui, il bouge jamais. Quand il bouge sous la forme d'un ange ou d'un homme sur la terre. Mais il est assis tout le temps sur son trône. Et le Saint-Esprit est en mouvement. Il regarde le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, Elohim, les deux personnes, le Père et le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas fini. Là où le Saint-Esprit se meut, il est en train de préparer. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2 que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de sonder, de voir quelle est la profondeur des ténèbres. Il est en train de prendre les mesures des ténèbres. Il est en train de préparer l'opération qui va se faire bientôt. Il est en train de préparer une opération dynamique qui va se passer. Parce que Dieu veut créer, le Père veut créer. Et le Saint-Esprit se mouvait. Il regarde ici, il regarde là, la dimension des ténèbres, la largeur des ténèbres, la profondeur des ténèbres. Il regarde toutes les dimensions. Quand le Père et l'Esprit étaient d'accord, le troisième va venir en scène. Et Dieu parla. Vous entendez? Et Dieu parla. Dieu ne parle pas là où il n'y a pas le Saint-Esprit. Et quand Dieu parle, il ne parle pas des ténèbres et il ne parle pas aux ténèbres. Jamais. Retenez ça, hein. Il n'a pas parlé aux ténèbres, il n'a pas parlé des ténèbres en même temps. Non, Dieu ne parle pas aux ténèbres, il ne s'intéresse pas aux ténèbres. Ce n'est rien ça. Pourquoi vous parlez trop de vos ténèbres? Pourquoi vous parlez de vos faiblesses? Pourquoi vous parlez de vos dépressions? Pourquoi vous embaumez l'atmosphère de votre maison avec des paroles négatives? Pourquoi? Pourquoi ça ne va pas, ça n'ira pas? Pourquoi? Pourquoi? Quand vous ouvrez votre bouche, la vie et la mort, Proverbe 18-21, sont là dans votre bouche. Quand Dieu ouvre sa bouche, c'est pour parler des choses positives, c'est pour parler des choses qui peuvent être un bénéfice. Il parla. Il a dit à la lumière, il dit lumière, c'est à toi que je parle, je ne parle pas aux ténèbres. De toute manière, quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Et écoutez, il dit ici, que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous voyez, frère? Est-ce qu'il a parlé aux ténèbres? Non, il parle à la lumière. Dans Jean 1, vous trouvez la même chose. Et la lumière est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. La même chose est là dans Jean 1. La même création est là dans Jean 1. Toujours par le Saint-Esprit. La même création est là dans la chambre haute. Quand les pierres étaient remplies de ténèbres et que le Saint-Esprit est descendu, il a transformé les ténèbres de pierre. La peur de pierre, il a changé tout. Donc, frère, c'est important que nous comprenions. Dieu parla et regardez, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un jour, il eut un matin. Ce fut le premier jour. Il doit avoir un premier jour dans notre vie. Le jour de la nouvelle naissance est notre premier jour. Le jour de la nouvelle naissance, c'est le jour où l'Esprit Saint et la parole ont travaillé de commun accord pour créer en nous une nouvelle vie. C'est le premier jour. Et la lumière de Dieu a jailli en nous et nous avons reçu cette lumière et nous sommes devenus une nouvelle création. Alors, je pose la question maintenant. Puisque Dieu a agi de cette manière-là, vous voulez que Dieu continue son travail comment? Comment Dieu va commencer et continuer? Il va changer? Alors, si Dieu ne change pas, pourquoi nous avons changé les méthodes de Dieu? Voilà comment il a créé les choses. Voilà, voici. Dieu, il n'y a pas de changement en lui, il n'y a pas d'homme de variation. Et nous voulons faire aujourd'hui les choses selon nos pensées. Mais c'est pourquoi Dieu n'est pas d'accord, il ne nous suit pas. N'oubliez jamais que Dieu ne fera pas plaisir à aucun homme. Il n'a pas fait plaisir à Adam, l'homme qu'il a créé à son image. Il ne lui a pas fait plaisir. Dieu ne l'a pas suivi, parce que c'est Adam qui devait suivre Dieu. Adam n'a pas suivi Dieu, Dieu l'a mis de côté. N'oubliez jamais cela. Bien que Dieu nous aime, si nous négligeons le Saint-Esprit et la parole, il nous met de côté. Aucun homme, quelle que soit sa taille, son ministère, son importance, ne peut mettre le Saint-Esprit et la parole de Dieu de côté et Dieu va continuer à le regarder. Frère, vaut mieux, ce n'est pas une question, c'est comme ça, c'est des principes de Dieu. Il n'opère pas autrement. Dites-moi, sans le Saint-Esprit et la parole, Jésus, comment Dieu peut opérer? Si vous enlevez le Saint-Esprit et la parole, vous avez enlevé les deux bras de Dieu. Vous voulez qu'il travaille comment? Dites-moi. Vous avez un Dieu manchot? Vous avez un Dieu manchot, frère. Et je vous dis des termes qui sont un peu terre à terre. C'est pour que vous compreniez là. Vous avez un Dieu manchot? Il n'a jamais travaillé sans le Saint-Esprit et la parole. Jamais. Et il ne le fera jamais. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. C'est pourquoi, là où nous sommes, en tant qu'individu ou communauté, nous devons laisser l'Esprit se mouvoir. Nous avons peur que l'Esprit se meuve. Parce que là où l'Esprit se meut, s'il vous plaît, il va enlever toute forme de ténèbres de nous. Et parfois nos ténèbres, nous voulons les cacher, nous ne voulons pas que l'Esprit vienne les toucher. C'est pourquoi beaucoup de gens ont peur du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas. La Bible dit qu'il sonde même les entrailles du Père, dans 1 Corinthiens 2. Même les entrailles du Père ne sont pas étrangères au Saint-Esprit. Alors, si je lui permets de me visiter, il va aller où? Dans les endroits où je n'ai pas envie qu'il fouine. Disons la vérité, c'est pourquoi nous ne voulons pas que le Saint-Esprit, non, quand on parle de lui, oh oui, oui, c'est très bien, mais Jésus a dit, il est bon pour vous, il est mieux pour vous, il n'y a plus d'intérêt pour vous que je m'en aille. Vous contredisez Jésus, si vous parlez de Jésus, vous le contredisez. Il vous a déjà dit qu'il est plus avantageux pour vous que lui s'en aille. Vous ne pouvez pas contredire Jésus et être heureux. Il vous a dit clairement, il est plus avantageux, il n'y a plus d'intérêt, il est mieux pour vous que je m'en aille. Frère, donc nous voyons ici, nous devons laisser le Saint-Esprit se mouvoir dans nos vies. Nous devons laisser le Saint-Esprit. Quand nous laissons le Saint-Esprit se mouvoir, alors la parole puissante, la parole efficace, la parole tranchante, la parole vivante, la parole puissante commence à faire des opérations en nous. Comme une épée à double tranchant commence à détruire toutes les formes de ténèbres dans nos cœurs. Hébreux 4, 12, Jean 1, verset 1 à 3 et ensuite d'autres passages de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit opère. Il n'y a aucun mouvement, aucune personne qui a mis en valeur le Saint-Esprit et la parole qui n'a pas été un homme de succès. Quand je dis succès, je ne parle pas avoir des voitures Roméo, des choses. Non, je parle de succès. Un homme qui affecte sa génération, un homme qui affecte son milieu, un homme qui a un impact durable sur la vie de ses voisins et de son pays, ou de sa région, ou de son église, ou en tout cas de sa famille. Ça ne peut pas. Quel que soit le domaine où vous êtes, que vous soyez un scientifique, un docteur, si vous mettez en place, en valeur le Saint-Esprit et la parole, vous serez un docteur exceptionnel. Et tout le monde va vouloir venir chez vous, parce qu'en entrant dans votre cabinet, les gens vont sentir qu'il y a une présence qui est différente de votre cabinet médical. Si vous êtes un pâtissier, les gens vont venir visiter votre pâtisserie, parce que vous avez mis en exergue le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Si vous êtes une institutrice, tous les parents veulent vous confier leur enfant, parce que il y a une sagesse tellement en vous que les enfants même ont un impact sur leur vie qui vont dire à la maison, maman, notre institutrice, mais elle est extraordinaire. Elle est comme Jésus. Elle est douce. Il y a quelque chose qui est en elle. Même les enfants vont venir tomber dans vos bras. Ils sont pressés de venir à l'école parce qu'ils savent qu'à l'école, ils seront renouvelés, consolés. Et vos patrons, au début, peuvent se moquer de vous. Mais vos patrons vont vous dire, mais s'il y a un problème, ils vont vous appeler dans leur bureau. Il dit, mais pour tel problème-là, qu'est-ce que vous pensez, vous? Pourquoi? Pas parce que vous êtes le plus qualifié, parce que vous avez une sagesse de Dieu en vous. Parce que nous avons vécu une vie de dichotomie, c'est-à-dire que nous pensons que le travail séculier n'a rien à voir avec le ça. C'est une erreur. Dieu, quand il est venu sur la terre, il a pris l'homme dans son entièreté. Ton travail, ta famille, tout est contrôlé par le Saint-Esprit, et alors tu deviens un exemple, un bon exemple pour les gens de ton entourage. Frères et sœurs, c'est la parole amène la lumière dans notre vie. Et j'ai noté quelques éléments pour nous ce soir. Nous voulons aller pas à pas. Nous allons faire une application. quand on enseigne sur les triangles semblables, on fait toujours une application. Un enseignant doit faire une application. Il doit prendre un exemple pour voir si ce qu'il a dit s'applique à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu cela? Allons dans Luc 1 pour voir si quelqu'un a vécu cela. Ça c'était au niveau de la création que Dieu a fait. Maintenant, est-ce que Dieu a appliqué ces deux éléments-là sur une personne humaine sur la terre? Allons-y voir dans le livre de Luc. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 et au verset 26. Luc 1, verset 26. Vous connaissez bien de qui il s'agit. Nous allons voir avec cette jeune fille-là. N'oubliez pas que le grand prophète Ésaïe avait annoncé 740 ans avant que la Vierge enfantera. Chaque génération a eu des Vierges et chaque génération attendait que leur Vierge enfante. Les générations sont passées. Et voici qu'une génération est arrivée. Ça, c'était après la mort d'Ésaïe. Une génération est venue et le Père Céleste là-haut a montré à l'ange Gabriel. Il dit, voici la Vierge Ésaïe. L'ange Gabriel dit, quelle Vierge? Il dit, mais la Vierge dont j'ai parlé dans Ésaïe 7, que la Vierge enfantera, et elle aura un enfant qui va s'appeler Emmanuel. C'est cette Vierge-là, la voilà. Je n'avais pas donné son nom, mais elle s'appelle Marie. Descends et dis-lui que la parole d'Ésaïe va se réaliser à travers elle. Je vous pose la question, vous êtes tous candidats à ça? On va voir si, quelle serait votre réaction. Je vais vous amener vous-même à réagir comme si vous étiez à la place de Marie. Et vous allez voir que quelque chose, vous allez sentir en vous que quelque chose ne va pas. Quand on lit ça, Marie était une jeune fille normale qui était fiancée. Elle aimait son fiancé. Et on vient lui dire, écoutez-moi s'il vous plaît. On vient lui dire, l'ange vient lui dire, salut à toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Elle est troublée par cette salutation. Mais là, on dit, ce n'est rien ça. Attends d'abord. Mais les gens sont troublés parfois quand Dieu envoie une simple parole de connaissance, ils sont troublés. Mais la suite vient. Le plat de résistance est là. Ça, c'est tout juste les salades et autre chose. C'est ça. Le plat de résistance vient. Et il dit ici, il dit, mais non. Et Marie dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cela? Et l'ange dit à Marie, et ceci, voici, tu deviendras, verset 31, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom Jésus. Alors, écoutez, mettez-vous à la place de Marie. Je vous transpose 2000 ans en arrière et sur le champ. Un ange apparaît, tout le monde veut voir des anges, mais pourtant quand ils apparaissent, ils vous parlent. Vous allez commencer à vous troubler. L'ange dit, vous dit, vous êtes Marie. Il dit, vous aurez un enfant. Vous êtes déjà fiancé. Et vous dites, ah, c'est normal, je suis fiancé. Quand je veux me marier, je vais dire, non, ce n'est pas avec ton fiancé. C'est avec qui? Il dit, attends. Ne te presse pas là. Il dit, tu deviendras enceinte. Hein? Enceinte? Sans aucune aide humaine. Mais souvent Dieu, à chaque situation que nous vivons, c'est la même chose qui se répète. Chaque problème que nous vivons sur la terre, c'est le même processus. La guérison d'un cancer, la guérison d'une maladie, la stérilité, toutes ces choses-là, c'est le même processus. Dieu ne change pas. Dieu est constant dans sa méthode d'approche. Il ne change pas. Il dit à cette Vierge, premièrement, tu seras enceinte sans intervention humaine. Deuxièmement, tu auras un fils sans échographie. Elle n'est même pas encore enceinte, hein. On dit tu auras un fils, un garçon. Ça, c'est vous voyez, le modernisme, Dieu avait déjà devancé les échographes. Troisième chose, écoutez, et le nom de l'enfant, ce n'est pas le père humain qui va le choisir, c'est le Père Céleste, puisque c'est un enfant divin. Alors, son nom sera Jésus, ce qui veut dire, c'était pas aujourd'hui comme nous, on a des prénoms comme ça, non, ça veut dire, son nom sera Dieu Sauveur. Trois choses. Je vous pose la question. Si vous dites à la place de Marie, que ferez-vous? Non, réfléchissez. Vous avez les mêmes problèmes tous les jours. Tous les jours, vous avez les mêmes problèmes que vous rencontrez. Quand la parole est prêchée, ça c'est un ange qui a parlé, mais ce ne sont pas les anges qui prêchent la parole, ce sont des pasteurs. Oui, les anges sont envoyés uniquement dans des cas spéciaux. Sinon, ce n'est pas eux qui prêchent la parole. Mais tous les jours, vous avez des prédicateurs, des pasteurs qui vous parlent les mêmes paroles, vous les écoutez, vous dites, oh, mais Samuel, là, il exagère. Hein? L'ange venait de mettre un sparadrap sur la bouche d'un prêtre qui s'appelle Zacharie, qui était incrédule. Zacharie n'a pas cru, il a dit, ok, il a pris un sparadrap, il a mis collé. Il dit, tu ne parleras plus jamais jusqu'à ce que l'enfant naisse. Parfois, si c'était comme ça dans l'église, ce serait bien. On aurait une église remplie de gens avec sparadrap dans la bouche. Surtout les hommes. Alors là, c'est leur spécialité. L'incrédulité. Les femmes sont plus ouvertes à l'esprit que les hommes. Il faut reconnaître cela. Acclamons les femmes. Acclamons les femmes. Acclamons les femmes. Il ne faut pas être jaloux là. Il ne faut pas être jaloux. Sur les choses de l'esprit, elles sont plus réceptives. Oui. Même si leur langue parfois... Ah non, je n'ai pas dit d'applaudir. Je n'ai pas dit d'applaudir. C'est moi qui suis sur la chair, c'est moi qui ordonne d'applaudir ou de ne pas applaudir. Donc, ok, écoutez, frère, vous voyez là, donc, trois choses. Tu deviendras enceinte sans intervention humaine, ni scientifique, ni rien. Deuxièmement, c'est un garçon que tu auras. Troisièmement, son nom est Jésus, Dieu Sauveur. Ça veut dire que il vient pour sauver les gens. C'est terrible, hein? Mais toute la renommée de... Quand Marie a réfléchi à ça, toute sa renommée était en jeu. Mais devenir enceinte, sans intervention humaine, ce qui signifie de dire qu'elle est une fille pas sérieuse. Et elle n'a pas le droit de se défendre. Elle peut perdre sa relation avec Joseph. Et, à l'époque, une grossesse comme cela, mais ça équivalait à être lapidé avec des cailloux. Vous imaginez, frère, vous imaginez, mes soeurs, vous imaginez, quand je dis que Dieu n'a pas changé de méthode, il a donné, vous voyez encore la parole est venue. Cette fois-ci, il a commencé par la parole. Il a envoyé la parole. Il attendait la réaction de Marie. Marie a passé la parole dans son cœur. Humainement, Marie ne pouvait pas utiliser son cerveau pour répondre oui à l'ange. Et parfois, nous voulons donner des oui par l'intellect à Dieu et ça marche pas. Frère, nous voulons répondre intellectuellement à Dieu alors que Dieu ne veut pas notre oui intellectuel. Dieu veut que le oui vienne de là. Et que même si le cerveau ne comprend pas, et si le cœur est d'accord, Dieu veut des oui qui viennent de là. Des oui qui disent, Seigneur, je crois de tout mon cœur qu'il est possible, que ce que tu as dit est réalisable. Ce que tu as dit, c'est possible. Et ce soir, c'est la même chose. Le pasteur a annoncé des guérisons ici. Mais certains ont dit, mais comment il n'est pas médecin? Et puis deuxièmement, comment peut-il oser dire comme cela? S'il avait dit encore, si, il n'a pas dit de si, il dit, mais vous êtes guéri, vous êtes guéri, vous êtes guéri. Mais l'intellect n'accepte pas ces choses-là. Il est dit que la chair n'accepte pas les choses de l'esprit. La parole de foi est une parole spirituelle, est une parole puissante. Ce n'est pas une parole de la chair. C'est-à-dire, la tête ne peut pas accepter les paroles de foi. Quand Dieu parle, c'est toujours des paroles de foi. Et ces paroles de foi sont une folie pour l'être humain. Pour ceux qui veulent raisonner, c'est pourquoi le monde nous traite de fous. Comment pouvez-vous accepter de croire que quelqu'un comme ça, il est assis, il dit, mais vous êtes venu de Paris, vous êtes guéri. Je dis, mais ça ne va pas. C'est un lavage de cerveau. Mais au moins, vous, on lave vos cerveaux. Dites-le, mais eux, leurs cerveaux ne sont pas encore lavés. Au moins, votre cerveau est lavé. C'est bien. C'est propre maintenant. Vous savez, c'est comme ça que j'étudie dans ma chambre avec Dieu. Mon étude prend 2 heures. C'est un dialogue avec Dieu. Je m'arrête. Quand il a parlé, je m'arrête. Je marche un peu. Je regarde, mais Seigneur, que veux-tu dire là? Mais c'est impensable. C'est fou. Mais Dieu ne parle pas. Tant que je ne dis pas oui, il continue. Parfois je marche, parfois je m'assois, parfois je me couche. Mais il dit non. Lève-toi et on va continuer à parler. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est important. Je me suis décapité intellectuellement il y a plus de 30 ans en arrière. Oui, je me suis décapité. J'ai été mon propre bourreau. J'ai enlevé la tête de mathématicien, d'économiste et j'ai implanté la tête spirituelle. Pour croire ce que Dieu dit. Un point, c'est tout. Comprenez? C'est ce qui fait que quand Dieu dit quelque chose, même si je ne comprends pas, je crois. Je crois, je n'ai pas tout saisi et je n'ai pas besoin de tout saisir. C'est important. Alors, ici, nous voyons que la réaction de Marie, le verset 34, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Vous voyez bien? Si l'ange avait dit, le nom de l'enfant serait Samuel. C'était bon, non? Il y a déjà eu un Samuel avec Anne. Il peut y avoir un deuxième Samuel. Mais il dit Jésus. Personne n'avait ce nom-là. C'est impossible. Écoutez, c'est important. La réaction de Marie, cette réaction... C'est cette réaction que Dieu attend de chacun d'entre nous ce soir et toujours. Quand vous ne comprenez pas, demandez à Dieu seulement comment, Seigneur, je ne veux pas argumenter avec toi, comment cette chose qui est humainement impossible peut-elle se réaliser? N'essayez pas d'argumenter avec Dieu. Dites-lui comment. Il va vous dire le comment. Il va vous dire le comment. Ne cherchez pas à argumenter. Vous perdrez votre temps. Et vous allez vous frustrer et l'incrédulité va s'installer. Marie dit, comment se fera-t-il? Cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme. Ah, une bonne réaction. Et l'ange de continuer, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit, vous voyez maintenant les deux éléments encore. Premièrement la parole, maintenant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fille de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui a été appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire là où il y a la parole, il y a l'Esprit Saint, alors rien n'est impossible à Dieu. Vous entendez bien? Cette conclusion de l'ange vient d'abord du fait que la parole a été accueillie et le Saint-Esprit entre en action. En ce moment-là, rien n'est impossible à Dieu. Quand le Saint-Esprit et la parole se manifestent, rien n'est impossible à Dieu. Mais s'il n'y a pas ces deux choses-là, Dieu ne peut rien faire. Rien n'est impossible à Dieu quand, lorsque la parole est donnée et lorsque le Saint-Esprit rentre en action. Alors, rien ne lui est impossible. Et il dit maintenant, si rien n'est impossible à Dieu, puisque le Saint-Esprit et la parole entrent en action, et toi maintenant, Marie. Et la réponse de Marie a été si facile, frère. La réponse de Marie dit, mais si c'est le Saint-Esprit et la parole qui font que Dieu, les choses de Dieu deviennent possibles, alors moi, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Et l'ange la quitta. On n'a pas su à quel moment la grossesse est venue chez Marie. On a constaté la grossesse chez Marie lorsqu'elle s'est rendue quelque temps tout juste après chez sa parente Élisabeth. Et dès qu'elle a ouvert la bouche pour saluer Élisabeth, le prophète et le patron sont face à face. Dans le ventre d'Élisabeth, il y a le prophète. Dans le ventre de Marie, il y a le patron. Dès que Marie a parlé, le prophète a commencé à tourner. Fiou! À danser. Et tout de suite, Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit. Et quand elle était remplie du Saint-Esprit, elle a commencé à parler. Toujours le Saint-Esprit, la parole. Alors ce soir, on va s'arrêter là. Je ne veux pas vous mettre sous pression plus que ça. Je pose la question, c'est si simple. Hein. C'est comme ça que je vis ma vie chrétienne, je ne la complique pas. Et c'est pourquoi je vois des choses, c'est pourquoi je ne suis jamais dans l'insomnie. Il n'y a aucun problème dans cette sujet terre qui peut me donner l'insomnie. Ce n'est pas l'orgueil, hein. Je vous dis la vérité. Moi, demande à ma femme, dès que je pose ma tête sur mon oreiller, 5 minutes, je ronfle. Je n'ai pas d'insomnie, frère. La dépression, je ne connais pas. Tu entends? Ah, mais je suis dépressif. Pourquoi? Dépressif, pourquoi? Pour quelle raison je suis dépressif? Quelle est la raison? Le Saint-Esprit habite en moi. La parole de Dieu est en moi. Il me dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est au dehors. Alors, je me base sur ça. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de problème. Hein. J'ai des problèmes comme le mont Himalaya. J'ai des problèmes plus que le mont Blanc. Mais le problème, ce n'est pas là le problème. Le problème, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que parce que tu ne crois pas que Dieu agit encore aujourd'hui par le Saint-Esprit et la parole. Demain soir, comme on va continuer avec la guérison et tout, mais ce soir-là, je voulais, c'était mon premier message du soir, pour vous parler de cœur à cœur, et on va prier. On va prier. Comment êtes-vous devenu enfant de Dieu? Vous avez oublié cela. Mon frère, ma sœur, comment êtes-vous devenu enfant de Dieu? Vous avez oublié que pour devenir enfant de Dieu, il vous a fallu d'abord entendre la parole de Dieu et que le Saint-Esprit rentre en action. Pour devenir enfant de Dieu, pour devenir chrétien, il a fallu les deux. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Pourquoi avez-vous bien commencé et continuez-vous sur des fausses bases? Pourquoi voulez-vous continuer sur une autre base alors que vous avez commencé par le Saint-Esprit et la parole? Alors ce soir, il est important de dire à Dieu, Seigneur, je veux revenir sur les anciens sentiers de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint. Commence à parler là où tu es maintenant. Commence à parler à Dieu. Si tu as laissé ces anciens sentiers et tu as pris les sentiers modernes qui ne donnent rien que la frustration, alors dis à Dieu ce soir, ton Père, Papa, je reviens à toi. Je me répands parce que j'ai emprunté les nouveaux sentiers, les sentiers du modernisme, les sentiers de la psychothérapie, les sentiers de l'analyse psychanalystique. Je ne sais pas moi, je ne sais pas quel sentiment de l'intellectualisme, de l'humanisme, du prosélytisme. Bon, je ne sais pas quel sentier tu as emprunté. Reviens à ton Père ce soir et dis, Seigneur, je veux revenir encore à toi. Je veux être connecté encore avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Je vais laisser la parole de Dieu m'imbiber totalement et le Saint-Esprit contrôler chaque aspect de ma vie, régner dans ma vie. Et ce soir-là, alors, Seigneur, je veux recevoir cette grâce, je veux recevoir cette bonté de Dieu en moi. Et si parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui sont venus ici parce qu'ils ont été invités par quelqu'un, ce soir-là, il y a une possibilité que vous aussi vous naissiez de nouveau, que vous receviez un cœur nouveau, que vous receviez un esprit nouveau. Si ce soir, vous croyez que réellement, Dieu peut créer en vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Là où vous êtes maintenant, vous qui êtes parmi nous, qui avez été invités, qui ne connaissez pas ce Jésus, mais qui voulez entrer dans cette dimension réelle de la nouvelle création, de la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, là où vous êtes assis maintenant, vous pouvez lever votre main simplement. Même s'il y a une seule personne, levez votre main là où vous êtes maintenant pour recevoir la grâce de Dieu ce soir, afin que vous quittiez cet endroit-là avec un cœur nouveau, un esprit nouveau. Voilà, il y a quelques-uns qui ont levé la main, plusieurs ont levé la main, oui. Voilà, donc dites avec moi cette prière ce soir. Vous qui avez levé la main, posez votre main gauche sur votre cœur. Posez votre main gauche sur votre cœur, dites avec moi, Seigneur Jésus. Là où vous êtes, dites simplement tout doucement, Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai reçu ta parole qui dit qu'au commencement, Dieu a créé le premier jour de l'univers par la parole et le Saint-Esprit. Et ce soir, moi aussi, je veux une vie nouvelle et je me tourne vers Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui est mort pour mes péchés, qui a pris tous mes péchés, qui est ressuscité le troisième jour et qui est la parole vivante de Dieu. Je reçois cette parole dans mon cœur maintenant. Et Seigneur, je confesse par ma bouche que ce Jésus est Seigneur. Et maintenant, par ton Saint-Esprit, je reçois un cœur nouveau. Je nais de nouveau dans ton royaume. Je reçois un esprit nouveau. Et ton Saint-Esprit lui-même vient habiter en moi. Et aujourd'hui est mon jour de naissance. C'est mon jour, c'est mon premier jour où mes ténèbres sont parties et la lumière de Dieu a brillé dans mon cœur. Je te remercie pour cette vie nouvelle, pour ce cœur nouveau, pour cet esprit nouveau. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Né dans le royaume, rempli de la grâce de Dieu. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole à Samuel, puisqu'on évolue. On est là jusqu'à vendredi, on va aller pas à pas.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.